CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour tout le monde, bon début de semaine et bienvenue à l'émission Les Aurores Montréal, votre rendez-vous d'information quotidien sur les ondes de CIBL. Mon nom est Charles Pinel et c'est à nouveau un plaisir pour moi d'être votre animateur pour la prochaine heure. Aujourd'hui à l'émission, je parlerai avec Léa Philippe, fondatrice du Festival des Arts de Ruelle, qui célèbre sa 9e édition cette année. Je recevrai aussi le Dr Perrault pour parler des recherches que son équipe et lui effectuent pour la découverte d'un vaccin contre le cancer. Mais avant tout, voici les actualités du jour. Tout d'abord, c'est jour d'élection dans Arthabaska-l'Érable, alors que les citoyens de la circonscription sont invités à aller voter entre 9h30 et 20h. La lutte s'annonce serrée entre Éric Duhaime, candidat et chef du Parti conservateur du Québec, et Alex Boissonneau, ex-journaliste pour Radio-Canada, qui se présente sous la bannière du Parti québécois. Malgré une élection partielle tenue en été, le taux de participation au vote par anticipation était assez élevé, alors que près de 15 000 personnes ont déjà voté, ce qui est le double du chiffre de la dernière partielle qui était tenue dans Terrebonne en mars dernier. À Montréal, deux défilés distincts ont exprimé des visions différentes de la célébration LGBTQ+, lors de la clôture de Fierté Montréal hier. Le défilé officiel sur René Lévesque a réuni 12 000 participants devant environ 150 000 spectateurs, dans une ambiance qui était festive et inclusive. De son côté, la Fierté indomptable, un autre défilé, a rassemblé des milliers de militants sur deux Maisonneuve, dénonçant la corporatisation de Fierté Montréal et prenant position sur d'autres enjeux que les droits LGBTQ+, tels que les luttes anticoloniales, anticapitalistes et pro-palestiniennes. Rappelons que le conflit israélo-palestinien a profondément divisé la communauté cette année, notamment autour de l'exclusion puis la réintégration de groupes juifs du défilé officiel de Fierté Montréal. Les agents de bord d'Air Canada organisent aujourd'hui une action simultanée dans quatre grands aéroports canadiens, soit ceux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, afin de dénoncer leurs conditions de travail. Selon le syndicat canadien de la fonction publique, ces rassemblements qui sont prévus à 13h, heure de l'Est, visent à attirer l'attention du public sur les faibles salaires et le travail non rémunéré. Cette mobilisation survient alors que des négociations sont en cours avec la direction d'Air Canada. Ces discussions ont été amorcées au début de l'année, mais restent toujours sans entente pour l'instant. Les négociations ont repris vendredi après un processus de conciliation non concluant. Les syndiqués qui ont voté à 99,7% en faveur d'un mandat de grève pourront légalement émettre un préavis de grève dès samedi prochain. À l'international, le premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé que l'Australie reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Il a affirmé que la paix ne pourra être durable sans deux États distincts pour les Israéliens et les Palestiniens. Depuis le début de la guerre, une dizaine de pays ont reconnu l'État de Palestine, portant environ trois quarts le nombre de membres de l'ONU qui le reconnaissent. En juillet, plusieurs pays occidentaux avaient déjà appelé à une telle reconnaissance, dont l'Australie, qui passera maintenant de la parole aux actes. M. Albanese a précisé que l'autorité palestinienne s'est engagée à exclure toute influence du Hamas dans un futur État palestinien. Et cette annonce survient alors que Al Jazeera, une chaîne qatari, a annoncé la mort de cinq de ses journalistes dans une frappe israélienne à Gaza. Des cinq journalistes, on compte Anas al-Sharif, une figure bien connue de la chaîne. L'armée israélienne a confirmé l'avoir visé, le qualifiant de membre du Hamas, ce que dénonce le Comité pour la protection des journalistes, qui rappelle que les journalistes sont des civils. Depuis le début de la guerre, près de 200 journalistes ont été tués, selon Reporters sans frontières. Israël accuse régulièrement Al Jazeera d'être affilié au Hamas et a interdit la diffusion de la chaîne sur son territoire en mai. Cette frappe est survenue alors que le gouvernement israélien met en œuvre un nouveau plan d'opération militaire axé sur la conquête de Gaza, plan qui inclut des couloirs sécurisés pour les civils et une augmentation de l'aide humanitaire, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'ONU alerte cependant sur un risque de catastrophe humanitaire encore plus grave. Enfin, à l'approche de la rencontre Trump-Poutine prévue en Alaska, les dirigeants européens insistent pour que l'Ukraine soit incluse dans les discussions de paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint un accord négocié sans Kiev, potentiellement défavorable à son pays, et a appelé ses alliés à définir une position commune. En réaction, l'Union européenne tient une réunion d'urgence aujourd'hui avec la participation du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Certains diplomates, dont l'ambassadeur américain à l'OTAN, estiment que la présence de Zelensky à la rencontre est encore possible. Plusieurs capitales européennes rappellent qu'aucune décision sur l'Ukraine ne peut être prise sans le pays présent. De son côté, Vladimir Poutine a multiplié les échanges diplomatiques avec ses alliés, notamment la Chine, l'Inde et plusieurs ex-républiques soviétiques. Pendant ce temps, les hostilités se poursuivent alors que Kiev a annoncé avoir repris un village dans la région de Soumy, tandis que des attaques russes ont causé plusieurs morts dans le sud-est du pays. Alors voilà pour les actualités. On passe maintenant en musique avec Areski et Tout ce que je sais de toi.
Advienne que pourra. toi. Il ne se dit pas tout ce que je sais de toi. Il ne se voit pas tout ce que je sais de toi. Je sais de toi. Tout ce que je sais de toi.
C'était Étienne Dufresne et la chanson « Je respire » avec Ariane Roy. Étienne Dufresne qui se produira d'ailleurs en duo le 24 août dans la Ruelle des Colibris lors de la 9e édition du Festival des arts de Ruelle, un événement unique au Québec qui, pendant 5 dates en août et en septembre, célèbre l'art de rue grâce à plus de 300 artistes pluridisciplinaires, des parades festives, des performances de rue en tout genre et une programmation musicale qu'on annonce renversante. Léa Philippe, fondatrice du festival, est au bout du fil pour en discuter avec nous. Bonjour Madame Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation.
Allô, tu peux m'appeler Léa.
Parfait.
Merci de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte, entre autres, à Étienne Dufresne dans la Ruelle.
Oui,
entre Moncton et Duberville, au nord de Jean Talon.
Ben pour l'avoir déjà vu en concert, c'est tout un artiste à voir, ça c'est certain. Écoutez, Léa, pour parler du festival, là, il commence à être de plus en plus connu. C'est sa 9e édition, je le mentionnais. Est-ce qu'on peut retourner à l'origine et pouvez-vous nous rappeler ce qui vous a poussé à le créer, ce festival-là?
Oui, certainement. Ben, en 2017, moi, j'étais artiste en jeu clunette, que je le suis encore d'ailleurs, et je cherchais un lieu où présenter mes débuts comme clown, mais pas par les clowns, avec des clowns pour les clowns. Je voulais un événement rassembleur pour toutes les disciplines artistiques qui permet vraiment d'entrer en contact avec un public ouvert. Puis la ruelle, c'est vraiment offerte à moi comme lieu évident de chaleur et de bienveillance. Il y a quelque chose qui se passe de magique dans les ruelles. Le public est détendu, ouvert. Puis là, le soir, on présente que des courtes performances qui permettent vraiment aux gens d'ouvrir leurs horizons entre un spectacle de musique, de cirque, de conte, de théâtre, de danse. Ça. Voilà, c'était ça qui s'est passé en 2017. Puis là, 9 ans plus tard, on a 10 dates du 21 août au 7 septembre. Ça va être incroyable.
Mm-hmm. Donc, bon, les ruelles pour l'ambiance qui les habite. Depuis 9 ans, là, comment est-ce que vous avez vu évoluer ce rapport entre vous, les artistes qui étaient là, et le public des ruelles?
Ben, je suis toujours surprise quand les gens me disent qu'ils connaissent le phare, par exemple. Là, ça, c'est vraiment qui vient me toucher, me faire plaisir. En fait, même c'est au Festival Colline à la Clinique-Antique où Étienne Dufresne était aussi, d'ailleurs. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, j'avais mon t-shirt fort, qui s'est mis à me parler de à quel point il trouve ça merveilleux, les spectacles dans les ruelles, puis qu'il allait être là. Fait que ça, c'est vraiment une différence que je vois, le rayonnement du fort partout au Québec, parce que oui, c'est sûr que les Montréalais, les Montréalaises se reconnaissent vraiment dans cet événement-là, parce que c'est tellement en proximité citoyenne, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est faire découvrir la ville de Montréal d'un autre angle. T'sais, c'est quoi les voyages en sac à dos à Montréal, c'est de découvrir la vraie vie citoyenne, c'est pas le centre-ville, c'est qu'on orange, c'est ce qui se passe en arrière des maisons. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est la plus grande avancée, c'est ça. Mais aussi d'un point de vue de réseau artistique, le phare, c'est vraiment un événement incontournable pour la grande famille des arts de rue. Donc, les artistes qui ont choisi de créer un espace public, de concevoir des œuvres pour l'espace public, que ce soit par exemple, des échassiers, des échassières, que des fanfares, des troupes de percussion, qui viennent au phare parce que c'est comme le rendez-vous annuel pour voir cette gang-là. Puis là, pour notre 9e édition, on a été accrochés par la Corée, la Corée du Sud.
Oui, allez-y. Non, allez-y.
Pour la 9e édition, fait que c'est, dans le fond, c'est le Seoul Street Art Festival. Ouais. Qui voulait créer un échange avec un festival québécois d'art de rue. Puis on a été approché comme étant le festival d'art de rue du Québec pour envoyer des artistes québécois en Corée, mais aussi recevoir des artistes coréens au Québec. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment comme une grande tape dans le dos du travail accompli des 9 dernières années. Là.
Mm-hmm. Fait que là, on peut s'attendre à avoir des artistes coréens cette année.
Ben oui, mais à chaque année, on a des artistes internationaux qui viennent par eux-mêmes, dans le fond, qui sont de passage au Québec par une tournée ou par simplement une envie de découvrir le Québec dans toute sa splendeur. Puis ils veulent participer au fort. On a des artistes de l'Espagne, du Pérou, de la Norvège, du Chili dans les dernières années, de l'Italie aussi. Puis là, c'est juste que c'est plus structuré et gouvernemental, comme vous dites, disons-le comme ça.
Puis, est-ce que c'est des artistes musicaux qu'on reçoit cette année? Ou de...
Non, c'est des artistes de rue qui sont plus dans le milieu clownesque et du jeu masqué, du théâtre masqué.
OK. Puis c'est ce même genre d'artiste qui va aller en Corée plus tard cette année?
Oui, c'est ça. On va faire une annonce prochainement pour nommer les artistes qui ont été choisis. On a envoyé une quinzaine de propositions d'artistes de la programmation du phare au Seoul Street Art Festival pour qu'ils puissent prendre une décision. Là. Mais on est très enthousiastes à le créer au phare bientôt.
Oui, mais c'est quand même une étape importante. Est-ce que ça peut ouvrir la porte à d'autres collaborations internationales futures, vous pensez?
Ben, on le souhaite, certainement. C'est comme un premier pas vers cette envie-là de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi en art de rue. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'aller au Chun Chan Puppet Festival, qui est un autre festival d'art de rue en Corée, plus spécialement en Marriott en 2019. C'est c'est autre chose. Puis nous aussi, même le sport au Québec a son unicité. T'sais, oui, c'est de l'art de rue principalement. Il y a aussi d'autres artistes qui sont pas spécialisés dans l'art de rue, comme Étienne Dufresne, par exemple, mais qui vont venir performer en ruelle. Mais la ruelle est vraiment unique. C'est de l'art de rue, il y en a sur des artères commerciales beaucoup au Québec. Ouais. Il y en a aussi dans les parcs, même si c'est de l'art de rue, dans le fond, ça s'adapte bien au milieu des parcs. Mais les ruelles, c'est vraiment quelque chose d'unique. Fait que cet échange-là de se présenter le lieu, évidemment, les artistes aussi, mais je pense que ça va être vraiment riche. Et puis le faire son unité aussi du fait qu'on est tellement chez les gens. Que les artistes coréens nous demandaient, ben, où est-ce qu'on va répéter? Où est-ce qu'on se prépare? Ben, on est comme ben, dans des maisons. Fait que ça va être vraiment le fun de voir aussi comment ils produisent et structurent leur festival.
Certainement. Écoutez, le fort, là, c'est défini comme un événement participatif qui est ancré dans le lien social et c'est gratuit. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui est important quand même à avoir, cette gratuité-là, pour refléter ces valeurs-là?
Oui, absolument. Ben aussi, moi, je parle du principe que les gens ne payent pas pour ce qu'ils ne connaissent pas. Puis, l'art de rue, malgré le fait que les artistes qui performent parfois ont 30 ans de carrière, ça reste niché. Donc, les gens vont pas dire « Ah, cool, je vais m'acheter un billet pour des artistes que je connais pas », surtout que c'est des courtes performances en alternance. Fait qu'il y a beaucoup de place à la découverte. Donc, pour que les gens aient envie de découvrir et ensuite, peut-être, suivre des artistes qui font leur petit cœur puis acheter des billets pour aller les voir dans d'autres occasions, bien, on trouvait ça important que ce soit gratuit, mais aussi par rapport à tous les enjeux sociaux dans les grandes villes. Tu sais, Montréal, il y a un clivage social qui se creuse. Mais pour moi, quand tu regardes un spectacle de cirque, tout le monde s'émerveille ensemble. Peu importe ton statut social, peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens. Parce qu'il y a beaucoup aussi de spectacles sans parole. Fait que c'est pas que pour des francophones, par exemple. Fait que pour moi, c'est très, très important cette accessibilité sociale-là. Donc, autant pour la découvrabilité artistique que pour les enjeux financiers, mais c'est sûr que ça a un coût qui est énorme pour le faire. Là, on a fait cheminer un peu l'année passée, j'ai beaucoup crié partout qu'on n'était pas admissible au programme du Conseil des arts et des lettres du Québec parce qu'on n'avait pas de billetterie, parce qu'on peut pas en faire de la forme aussi de notre géométrie de festival. On est chez les gens, on peut pas mettre de billetterie, ils peuvent passer par les maisons. Et là, maintenant, on est admissible, puis on a eu une réponse positive avant-hier.
Okay.
Mais ça reste que... c'est très, très cher organiser ça. Il y a un coût énorme à la culture. C'est le travail des artistes d'être là. Donc, on a une campagne de financement encore cette année. C'est toujours sur une trame de fond de survie parce qu'on fait beaucoup avec peu de moyens. Alors, si les gens veulent donner, c'est au festivalfar.com/je-soutien, festivalfar.com. Cette année, notre objectif est 15 000, puis si on l'atteint, la mise sera doublée par le gouvernement avec un programme de la ruche.
OK.
Mais les gens peuvent donner aussi en tout temps à l'année au festivalfar.com/je-soutien.
Puis c'est quand même important, puisque, bon, vous avez dit l'an passé, il y a eu quelques difficultés. En fait, ça a passé proche de ne pas avoir lieu, le festival.
Ouais, ben en fait cette année l'année passée c'était catastrophique, mais entre toi et moi et tous les auditeurs, c'est encore le cas. C'est juste que on peut pas toujours être en train d'hurler qu'on va mourir parce qu'on est vraiment une gang très positive qui on veut partager le bonheur, on veut partager la joie, on veut que les gens aient envie de se rassembler, mais on jongle avec une précarité vraiment, vraiment, vraiment difficile à porter. Donc, on est toujours dans cette situation-là, même si on positionne différemment sur la voie publique. Puis, tu sais, cette année, c'est un peu surprenant, mais on a ajouté des dates malgré la situation. T'sais, en fait, l'année passée aussi, c'était deux dates, encore deux dates. C'est juste que là, c'est plutôt que des événements spéciaux, ben on a vraiment ouvert deux nouveaux quartiers généraux. Et dans le fond, les 23 et 24 août, c'est nouveau qu'on fait des activités la fin de semaine avant la fête du travail. Dans le fond, c'est qu'un quartier général, c'est qu'on installe des scènes dans les ruelles. Pour ça, ça prend une mobilisation de tout le voisinage. Là. C'est vraiment... Puis il n'existe pas de registre des voisins. Fait que fait qu'on... Le 23 août, on est près de Berry-Cam dans la rue de Landrec. Le 24 août, on est près de la station d'Iberville. On garde nos 5, 6, 7 septembre habituels, donc après la fête du travail. Puis entre tout ça, il y a évidemment la tournée des parades qu'on continue on va dans Montréal-Nord, dans le Côte des Neiges. Tout ça est détaillé au festivaltard.com dans les programmations.
OK. D'ailleurs, en fait, là, c'est ça, il y a les cinq dates principales, on va dire, là, qui sont...
Moi, je pense qu'elles sont toutes principales.
Ouais.
Ouais, les cinq dates de quartier généraux, disons-le comme ça, c'est okay. Lequel plus d'activités.
Ouais. Durant les autres dates qui sont entre ces dates de quartier généraux-là, c'est des événements qui sont plus petits en taille, en fait?
Ouais, ça dure une heure, en fait. C'est une parade selon une thématique différente à chaque jour. C'est pas participatif, on veut que les gens se costument. D'ailleurs, chaque quartier général commence aussi par une parade. Fait qu'on a vraiment des parades tout le temps. Au phare, c'est un moyen de rassembler les artistes de différentes disciplines puis vraiment d'intégrer le public au processus créatif là, dans un projet de médiation. Fait que, par exemple, on a une parade futuriste cette année. Fait qu'on veut okay. que les gens soient déguisés en astronaute, en étoile, en extraterrestre. Puis là, en déambule, il y a une fanfare, il y a des échassiers, des échassières, de la jonglerie, du jeu clownesque, puis on avance pendant une heure dans un circuit de ruelles. Ce qui fait que on bloque pas les ruelles sauf le temps de la traversée versus les quartiers généraux où là, on ferme la ruelle, on implante des scènes, il y a un bar. Fait que c'est ça la différence majeure, c'est vraiment la tournée des parades. C'est que mobile et ça dure une heure.
OK. Est-ce que le temps file un peu. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui viennent au festival pour la première fois retiennent de cette expérience-là?
Moi, j'ai envie que les gens soient en mode découverte, qu'ils s'émerveillent. Vraiment, je pense que le faire, c'est une occasion de se reconnecter à cet émerveillement-là qu'on a tout le monde là, à l'intérieur. Fait que les yeux qui brillent au fer, il y en a tellement là, par centaines. C'est magnifique de juste voir, d'être dans la découverte. Puis, t'sais, oui, il y a les spectacles sur scène, il y a les parades, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle, nous, le fourmillement. C'est un nom qu'on a donné aux activités de médiation qui sont dans les ruelles des quartiers généraux. Puis, il y a de l'art visuel qui se fait en direct. Il y a des personnages qui déambulent au travers de ça. Mais juste d'être... Puis de lever les yeux sur ce qui nous entoure. Puis je pense qu'à notre époque, où on a les yeux collés sur nos téléphones aussi, ça vient vraiment nous toucher quand on est stimulé par autant de joie autour de nous. Puis tout ça, ça crée des liens entre les gens, qu'on le veuille ou non. T'sais, tout le monde s'émerveille ensemble en levant les yeux. Fait que moi, c'est ça que j'ai envie que les gens vivent au fort. Mais c'est aussi de s'émerveiller sur notre patrimoine architectural. Il y a vraiment quelque chose d'unique dans ces bâtiments-là, dans les ruelles. Il y a d'ailleurs une exposition au musée Pointe-à-Calière en ce moment qui célèbre les ruelles dans laquelle cette exposition-là, le parc fait partie. Fait que, je pense que c'est ça, de redécouvrir le monde qui nous entoure, de tomber en amour avec notre ville aussi, d'avoir envie d'en prendre soin, autant d'un point de vue social qu'environnemental. C'est un peu le souhait que je fais pour le public et les artistes et les bénévoles qui sont au fort.
C'est un très beau message. Je rappelle le site Internet pour tous les détails. C'est le festivalfar.com. La première date est le 23 août et c'est jusqu'au 7 septembre. Léa Philippe, fondatrice merci. Du Festival des Arts de Ruelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Je ne l'ai pas nommé. On a une date spéciale cette année qui est le 21 août aussi. Fait qu'on commence avant le phare en fait avec une projection cinéma du parc. On va présenter des projets vidéo que le phare a fait. On met ça sur le grand écran, mais après ça, il y a un encore clownesque, puis il y a aussi du karaoké au cinéma. Fait que je pense que c'est une activité qui est à ne pas manquer.
Excellent. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Léa Philippe. On prend maintenant une pause et on se retrouve après.
Fort du succès de sa première édition, le Cirque Éloise est de retour avec son spectacle immersif Bon Voyage. Grâce à des projections à 360 degrés, effectuez un voyage à travers le temps et redécouvrez un pan fascinant du patrimoine montréalais, magnifié par l'art du cirque. Bon Voyage, un tourbillon d'acrobatie renversante, de poésie et de frissons pour petits et grands, présenté tout l'été dans un lieu historique du Vieux-Montréal, la gare d'Alousie. Réservez dès maintenant vos billets sur cirque-éloise.com.
Les billets Méga 360 et Giga 360 de Loto-Québec sont de retour. Jouez en ligne ou en magasin pour courir la chance de venir tourner la roue et gagner jusqu'à 1 million de $. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 1 million de $. Plus de 4,5 millions ont été remportés l'an passé. C'est gros, même méga gros. OK, même méga giga gros. Méga et Giga 360, jouez dès aujourd'hui, c'est peut-être votre tour. 18 ans et plus.
Bonjour, je m'appelle Cathy Cuoco.
Retrouvez-moi cet été avec La Minute à l'italienne, où je vous amène en voyage à travers l'Italie, un proverbe à la fois. Arrivederci!
Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL.
Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, boy. Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
J'ai vu la liste complète des armes de destruction massive. Si l'argent sert de navette, la peur mène l'offensive. Avec des idées secondes mains, une ligne de pensée étroite. Les bourreaux provoquent le déclin contre lequel ils se battent. Je n'ai jamais connu la haine avant cette perte d'équilibre. Et à la vitesse où tout s'enchaîne, chaque secousse est nuisible. Et je chiale quand je regarde leur humanité vivre sous le seuil de la pauvreté. Aucune étude à faire, juste la soif de dominance qui gouverne la manière. Je peux essayer d'étendre la portée de la morale, mais difficile d'embrasser leur vision d'un idéal. Leurs bouches sont des dépotoirs saturés d'ordures qui me rappellent que toujours l'histoire visite ses baveux. Et je chiale quand je regarde leur humanité sous le seuil de la pauvreté. Quand je regarde leur humanité vivre sous le seuil de la pauvreté.
Voyez-vous dans leurs yeux ce petit quelque chose, comme un rêve brisé, une grande blessure jamais cicatrisée. Voyez-vous dans leurs yeux comme un hymne à l'amour qui dit merde à toutes vos bienséances, à toutes vos bien-pensances. Voyez-vous dans leurs yeux ce grand dégoût sincère de vous voir condamner ce qui ne se juge pas, ce qui ne se change pas. Voyez-vous dans leurs yeux cette envie d'être fier envers et contre tous, cette liberté sacrée, brûlante comme un soleil, brûlante comme un soleil. Voyez-vous dans leurs yeux ces pays intérieurs qui font fi des frontières, des règles et des lois dictées par vos faux rois. Voyez-vous dans leurs yeux la beauté de l'humain dans toute sa splendeur qui vous renvoie la honte et refuse la peur, et refuse la peur. Voyez-vous dans leurs yeux cette arrogance superbe, cette force naturelle de se tenir bien droit sous la pluie, dans le froid. Voyez-vous dans leurs yeux cette chance inouïe d'être simplement là, de faire partie de ceux qui ne s'excusent pas, qui ne s'excusent pas. Voyez-vous dans leurs yeux cette flamme superbe, celle qui vous brûlera si vous les approchez sans vraiment les aimer. Voyez-vous dans leurs yeux ce trop plein de violence que vous avez cherché en tentant de faire taire ces 1 000 milliards d'étoiles qui ne voulaient que briller.
De retour à l'émission Les Aurores Montréal sur les ondes de CIBL 101.5. Les deux dernières pièces étaient Tire le coyote avec le seuil de la pauvreté et Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas de Pierre Lapointe. Directeur de l'unité de recherche en immunobiologie à l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal, le docteur Claude Perrault, avec l'aide de son équipe, étudie les cellules qui régissent et qui régissent le fonctionnement du système immunitaire afin de mieux le comprendre et de l'améliorer. Leur recherche vise entre autres à créer un vaccin contre le cancer et prévenir le vieillissement du système immunitaire. Récemment, une avancée dans ces recherches permet de croire au développement d'un vaccin pour le traitement de deux cancers, soit le mélanome et le cancer du poumon non à petites cellules. Le Dr Perrault est avec nous en studio ce matin pour discuter des détails de cette découverte. Bonjour Dr Perrault, bienvenue à l'émission.
Bonjour M. Pinel.
Alors, Dr Perrault, comme je le mentionnais, vos recherches visent à développer un vaccin contre le cancer. Pouvez-vous nous expliquer tout d'abord comment ça fonctionnerait, un vaccin contre le cancer? Puisque moi, quand je pense à un vaccin, je pense à quelque chose qui vient injecter une petite dose d'un virus pour que notre système immunitaire apprenne à le combattre. Et un cancer, c'est pas exactement un virus, à moins que je ne me trompe.
Votre question est très juste. Et pour le moment, le type de vaccin que nous visons à développer, c'est des vaccins pour traiter plutôt que prévenir.
Okay.
Alors, c'est la première chose qui choque les gens. Ils disent, mais un vaccin, on donne ça habituellement pour prévenir, mm-hmm. pas pour traiter. Et l'explication est simple. Si je reçois un vaccin, je vais développer une réponse immunitaire contre le vaccin dans 2 à 3 semaines. Okay. Alors, si j'ai une infection, mm-hmm. et que je développe une réponse immunitaire dans 2 à 3 semaines, je vais déjà être guéri ou mort. Mm-hmm. Ça ne donne rien de vacciner pour une infection qui est commencée, parce que l'infection progresse en quelques jours. Pour un cancer, par exemple, on a devant nous des mois à des mm-hmm. années. Donc, c'est pour ça que on envisage la possibilité, la faisabilité de donner des vaccins pour traiter le cancer. Maintenant, comment est née l'idée? Je dirais que la première observation qui a fait croire que c'était un objectif raisonnable a été faite par des pathologistes, ceux qui examinent les tumeurs au microscope. Ils sont aperçus que dans tous les types de cancers, plus il y a de cellules immunitaires dans la tumeur, plus le pronostic est bon. Okay. Alors là, tout le monde s'est dit, donc, il y a des cellules immunitaires qui infiltrent les tumeurs cancéreuses. Et là, tout le monde s'est posé la question, que reconnaissent ces cellules immunitaires qui infiltrent les tumeurs et qui sont capables de diminuer la progression des tumeurs? Alors, c'est le départ, si vous voulez, de notre recherche sur la découverte des molécules qui sont propres aux cellules tumorales et reconnaissables par le système immunitaire. Et des cellules, des molécules reconnaissables par le système immunitaire, on appelle ça des antigènes.
Mm-hmm.
Donc, globalement, on dit qu'on est à la recherche d'antigènes cancer spécifiques pour développer des vaccins.
L'avancée que vous avez faite récemment, c'est justement que vous avez réussi à identifier des nouveaux antigènes tumoraux. Pouvez-vous nous vulgariser, en gros, qu'est-ce que ça représente?
Oui, avec plaisir, parce que beaucoup de gens sur la planète se sont mis à la recherche des antigènes cancers spécifiques. Et l'idée populaire qui a été véhiculée, c'est que les antigènes cancers spécifiques étaient probablement des antigènes porteurs de mutations et fabriqués par l'ADN classique de nos cellules. Alors, quand je dis l'ADN classique, vous savez, l'ADN contient toute l'information génétique de nos cellules et les gènes classiques. Quand on parle des gènes de, par exemple, de Charles Pinel, eh bien, M. Pinel, vos gènes représentent 2 % de votre ADN. Le reste de l'ADN, on appelle ça communément l'ADN poubelle.
Mm-hmm.
Alors, nous, au début, on a fait comme tout le monde. On a cherché des antigènes cancer spécifiques dans l'ADN classique, dans les gènes. Puis, on cherchait plus précisément des gènes porteurs de mutations. On n'en a pas trouvé. Mais la différence entre nous et les autres équipes, c'est que nous, quand je dis nous, il y a un personnage super important. Et c'est mon collègue Pierre Thibault qui est chimiste. Alors, je me suis dit, si on cherche des antigènes, c'est des molécules, il n'y a personne de meilleur qu'un chimiste pour identifier des molécules. Alors, nous, on ne fait pas des prédictions, on fait des identifications. On prend des cellules tumorales, on les analyse avec une technique chimique particulière, et là, on identifie les antigènes tumoraux qui sont présents. Et on s'est aperçu que, eh bien, c'était pas vrai que les antigènes tumoraux venaient de mutations dans l'ADN classique. Au contraire, la très grande majorité des antigènes cancers spécifiques viennent de gènes non mutés qui appartiennent à ce qu'on appelait auparavant l'ADN poubelle.
Dans ce 98 % qui n'est pas ce qui nous rend unique, d'une certaine façon?
Le 100 % nous rend unique.
Ouais, okay.
C'est juste que le 98 % ça prend des nouveaux outils pour l'explorer. Ouais. Sa fonction est plus difficile à comprendre que celle du 2 %.
Et donc, c'est le fait que vous n'aviez rien trouvé dans le 2 % qui vous a poussé à explorer ce...
Absolument. Et puis, on a fait tout bonnement comme... Je me rappelais quand je disais Sherlock Holmes, quand j'étais jeune, puis il disait, si vous avez éliminer toutes les autres possibilités, celle qui reste doit être vraie. Alors, personne n'avait regardé l'ADN poubelle. On l'a regardé. On l'a trouvé.
Et là, vous disiez que c'est des antigènes qui n'ont pas de mutation.
Exact.
C'était une surprise de trouver ça?
C'était une surprise. Et parce que pourquoi, s'ils n'ont pas de mutation, pourquoi sont-ils présents juste sur les cellules cancéreuses? C'est parce que les cellules cancéreuses ont de nombreuses anomalies Et une des anomalies qu'elle présente, c'est qu'elle se met à fabriquer des protéines à partir de l'ADN poubelle, des protéines qui ne sont normalement pas fabriquées par des cellules normales. Donc, ces protéines sont des antigènes, donc des molécules spécifiques aux cellules cancéreuses, et elles sont reconnaissables par le système immunitaire. C'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des antigènes cancer spécifiques.
Puis cette découverte-là, est-ce que ça change un peu notre compréhension des cancers et de leur développement?
Ça change beaucoup la compréhension du cancer et du développement, et ça change beaucoup le traitement qu'on peut imaginer pour le cancer. Et si je reviens à l'idée de fabriquer des vaccins pour traiter le cancer, eh bien, on trouve que, clairement, nos antigènes sont de loin les plus intéressants parce que, ils sont nombreux, ils sont capables de stimuler le système immunitaire, et fait intéressant, ils sont partagés par les tumeurs d'un type donné. Alors, par exemple, si je prends un cancer du poumon ou un cancer du côlon, etc. Alors, les antigènes tumoraux qu'on retrouve sont les mêmes. Donc, ça nous permet de développer un vaccin qui va être utilisable pour traiter l'ensemble de la population. Alors que ceux qui travaillent à fabriquer des vaccins qui portent sur des mutations, les mutations sont différentes dans chaque tumeur. Donc, il faut qu'ils fabriquent un vaccin pour chaque patient, ce qui
m'apparaît... Ça doit être coûteux aussi.
Absolument.
Je mentionnais que cette avancée-là permettait de croire au développement d'un vaccin pour deux cancers plus spécifiquement, qui sont le mélanome et le cancer du poumon non à petites cellules. Pourquoi ces deux cancers-là en particulier?
Alors, on a étudié ceux-là, mais on en a étudié d'autres. L'intérêt de ces deux-là, c'est que auparavant, on a étudié le cancer de l'ovaire, le cancer du sein, la leucémie, qui sont des cancers où il n'y a pas beaucoup de mutations. Et là, les gens disaient, vous trouvez surtout des antigènes non mutés parce que vous étudiez des cancers qui ont peu de mutations. Ceux qui ont le plus de mutations, c'est le mélanome puis le cancer du poumon non à petites cellules. Alors, on s'est dit, on va les étudier, ces cancers, avec beaucoup de mutations. Et on a vu que chez eux, comme chez les autres cancers qu'on avait étudiés, la très grande majorité, plus que 95 % des antigènes cancers spécifiques sont non mutés et fabriqués par l'ADN poubelle.
Là, avec cette découverte-là, on en serait où concrètement vers le vaccin d'un cancer?
Alors, l'Université de Montréal a recruté des investisseurs au Québec et au Royaume-Uni pour créer une petite compagnie qui s'appelle Epitopea. Et quand je parle d'investisseurs québécois, là, je parle de... Il y en a trois principaux. CTI, Sciences de la vie, le Fonds de solidarité des travailleurs de la FTQ et Investissement Québec. Et des investisseurs britanniques créent une petite compagnie dont on prévoit que les premiers essais cliniques vont commencer en 2026, donc l'an prochain.
Okay, quand même.
Oui. Alors, c'est pas loin. Et on a vraiment très hâte.
Je lisais que, historiquement, dans vos recherches, vous testiez des traitements sur des souris. Est-ce que c'était le cas pour ça aussi?
Oui. Alors, parce que les gens étaient... Il y avait des sceptiques qui disaient, est-ce qu'on peut vraiment faire régresser des cancers en vaccinant avec ce type d'antigène? Et on a montré chez la souris que oui, c'est possible, et on utilise plus précisément des vaccins ARN qui se prêtent très bien à ce type de vaccination-là, et les résultats ont été excellents.
Et si les résultats, une fois que les essais cliniques commencent, sont également positifs, est-ce que ça ouvre la voie pour des vaccins pour guérir d'autres types de cancers que ces deux-là?
Absolument. Ouais. A priori... tous les cancers qu'on a étudiés pourraient être traités avec ce type de vaccin-là. Okay. Et ça veut dire ovaire, sein, leucémie, poumon, mélanome et cancer du côlon.
OK. Fait que c'est quand même encourageant, là, tout ça. On se rapproche petit à petit, mais assurément d'une solution.
Oui, puis il y a une chose qui me rend fier, c'est que la recherche qui a mené à ça, là, c'était financé par les citoyens du Québec. Là. Mm-hmm. C'est des fonds gouvernementaux qui ont subventionné cette recherche-là. Et si ces vaccins ont du succès et qu'ils sont commercialisés, eh bien, l'Université de Montréal, Investissement Québec, le Fonds de solidarité vont avoir des retombées économiques de tout ça.
Assurément. Donc, si on résume l'essentiel de ces recherches, de cette avancée-là, c'est que, bon, vous avez identifié des antigènes. Rappelez-moi, cancer...
cancer spécifique, oui.
Exactement. Puis, le vaccin viendrait... cibler apprendre au système immunitaire à cibler ces antigènes-là sur les cancers.
Exactement. Alors, par exemple, dans les prototypes de vaccins qu'on a fait chez la souris, on fabrique de l'ARN qui code pour des antigènes cancer spécifiques. On injecte l'ARN aux souris. Mm-hmm. Elles développent une réponse immunitaire et rejettent les cancers.
Pour ceux qui sont plus intéressants à savoir plus, je pense qu'il y a une... vos recherches ont été publiées également récemment. Rappelez-moi le nom de la...
Alors, ça a été publié dans le journal Nature Cancer. Et comme toutes nos publications maintenant, c'est ouvert. Tout le monde peut lire nos publications. Il n'y a pas de frais d'abonnement de publication. Et toutes nos données brutes sont accessibles à tout le monde.
Et c'est écrit en anglais, je pense.
C'est écrit en anglais, oui.
Très bien. Ben, Dr Perrault, directeur de l'unité de recherche en immunobiologie à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. Et on souhaite que ça s'avère que le vaccin contre le cancer se développe réellement. Du moins, c'est encourageant.
Ben, merci à vous, ça a été un plaisir d'être ici.
Sûrement. On prend maintenant une pause musicale avec Shawit et c'est la fin de semaine.
Phone on time out. Hey, kiss me, baby. Tell you what. J'avais tellement hâte que ça vienne. C'est le temps de s'amuser, bébé. C'est la fin de semaine. J'avais tellement hâte que ça vienne. Dis-moi où tu veux aller. C'est la fin de semaine. J'avais tellement hâte que ça vienne. C'est le temps de s'amuser, bébé. C'est la fin de semaine. J'avais tellement hâte que ça vienne. Dis-moi où tu veux aller.
Now we're not gonna watch a thing, we're not gonna ace. At the weekend we change it up the pace.
C'est la fin de semaine.
Dans un beau fait fouet, le tour du long. Championne des mini-pots.
On est allé au bord de la rivière. Attends que le courant passe. Les deux sous un ciel étincelant. Attends que survienne l'étincelle. Et je virai vers le firmament pour un moment qui serait éternel. T'es comme un resto vide, tu m'attires pas pantoute. T'es comme un resto vide, tu m'attires pas pantoute.
C'était Resto vide de Maxime Auguste. Et c'est là-dessus que prennent fin les Aurores Montréal pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Merci à Maurice Bolduc en régie. Mon nom est Charles Pinel. C'était à nouveau un immense plaisir de commencer la journée avec vous. On se retrouve demain matin à 9h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye tout le monde.
Cet été, le Bingo Radio de CIBL vous fait jouer et gagner. Le prochain bingo est le 17 août. Branchez-vous un dimanche sur deux à 13h en direct sur CIBL 101.5 FM, également sur votre téléviseur avec Vidéotron, canal 574 et Bell, canal 959. Bonne nouvelle! 3 500 $ en prix à gagner! Du plaisir, de la musique estivale et une belle façon de soutenir le financement de votre seule radio communautaire francophone à Montréal depuis 45 ans. Livret disponible dans nos points de vente habituels. Consultez la liste sur CIBL1015.ca. La radio qui vous rassemble, qui vous fait gagner. Bonne chance!
Le quatrième mur.
Bon, Siri, c'est quoi, mettons, là, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h?
Le quatrième mur.
La Justice à cœur est animée par Maître Chantal Pailly, directrice générale de l'aide juridique de Montréal. Ayant grandi dans une famille à faible revenu, née de parents sourds et analphabètes, elle a vu de près ce que signifie vivre sans ressources. Ses expériences l'ont inspirée à créer un espace où l'on partage des récits humains et des discussions authentiques sur l'importance d'une justice accessible pour tous. Écoutez, soyez touchés et découvrez un univers fascinant. C'est un rendez-vous les mardis de 11h à 11h30 sur les ondes de CIBL.
Cadence. 3 heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
CIBL au cœur de la décadence.
CIBL 101.5 Montréal.
Ciber, 40 años en el corazón de la cultura.
À la longue, on se fatigue à prolonger la digue. À mesure qu'on s'éloigne,